Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. On va commencer par revenir sur la flambée des prix de l'énergie, gaz, électricité, essence à la pompe. Ça n'arrête pas de monter. Mais pourquoi ? Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de la question. Il est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite Olivier Siboni, dont le livre Noise, coécrit avec un prix Nobel et un professeur à Harvard, est déjà un best-seller aux États-Unis et vient de sortir en France. Noise, le bruit en anglais, c'est ce qui nous fait commettre des erreurs de jugement sans qu'on s'en aperçoive. On n'en parle jamais. On a tort. Et l'on terminera l'émission avec la psychanalyste Caroline Eliachev qui publie Ma vie avec la comtesse de Ségur. Ah, la comtesse de Ségur, une révolutionnaire dans son genre.
Europe 1.
Bonjour Jean-Pierre Favennec.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'école du pétrole et des moteurs qui maintenant s'appelle IFP School.
Tout à fait.
Et vous êtes un spécialiste de l'énergie. On vous doit notamment un atlas mondial des énergies chez Armand Collin et le livre Les marchés de l'énergie chez Technip Édition. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi un gel des tarifs du gaz et de l'électricité cet hiver pour protéger les Français, pendant un certain temps du moins. Des hausses considérables des prix de l'énergie. Le gaz a augmenté de près de 60% en un an et de 12,6% hier, le 1er octobre. Une hausse historique. L'électricité devait augmenter de 12%. Le gouvernement a décidé de plafonner la hausse à 4%. Quant au prix de l'essence, la barre symbolique des 2 euros le litre a été franchie dans certaines stations-service. Le prix du Brent, l'indice de référence pour le pétrole brut en Europe, a atteint 68 euros. C'est 10 euros de plus qu'il y a 2 semaines. Alors on aimerait comprendre évidemment pourquoi de tout ça. Le gaz d'abord, pourquoi une telle flambée ?
Si on fait global déjà en un premier temps, la reprise économique est très forte actuellement, donc entraîne une très forte consommation d'énergie.
Notamment en Asie, je crois.
Notamment en Asie, effectivement. Donc à la fois beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz et de l'électricité aussi. On sait qu'actuellement en Chine, il y a des pénuries extrêmement importantes d'électricité. Mais si on revient donc au plus spectaculaire, c'est évidemment l'augmentation du prix du gaz. Là, on parle du prix du gaz au marché international, on ne parle pas du prix du gaz chez le consommateur, a été multiplié pratiquement par 5 sur les derniers mois, sur 8-10 mois. Donc c'est fabuleux. Pour vous donner des chiffres, je ne vais pas vous donner l'unité, c'est ce qu'on appelle le dollar par million BTU, oubliez-le très vite. Hein. Si on prend une référence, c'est 3 ou 4 dollars aux États-Unis. Ensuite, si on veut l'amener en Europe, il faut le liquéfier, il faut le transporter. On va dire que c'est 4 dollars pour faire très simple. Ça devrait être 7 ou 8 dollars. Actuellement, on a largement dépassé la cape des 20 dollars. Et donc, ça représente un coût extrêmement élevé. Donc, effectivement, le prix du gaz. Et le prix du gaz, l'augmentation très spectaculaire du prix du gaz, plus quand même que le pétrole et l'électricité, s'explique par le fait que c'est un produit dont on a besoin. La reprise économique, par exemple, si on prend l'exemple de la Chine va avoir besoin de beaucoup de gaz. Pourquoi ? Parce qu'il y a bientôt les Jeux Olympiques. Donc, comme d'ailleurs en 2008, quand il y a eu des Jeux Olympiques à Pékin, les dirigeants chinois, pour éviter la pollution, donc ferment les centrales au charbon. Donc, ils ont besoin d'électricité, donc ils vont davantage faire de l'électricité avec du gaz. Et d'une façon générale, donc en Chine, on a besoin, ils se sont quand même commis à réduire leurs émissions de CO2 et de pollution, donc ils vont avoir besoin de plus de gaz.
Mais on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements dans cette source d'énergie ces dernières années.
Alors, la grande difficulté actuellement, si vous voulez, je vais être un petit peu, peut-être un tout petit peu, je ne suis pas trop iconoclaste, c'est qu'on a d'un côté la transition énergétique qui veut dire que, écoutez, il y a des gens qui ont dit, l'AIE elle-même a dit récemment, arrêtez tous les investissements dans le secteur pétrole et gaz. Donc, mais comme on ne sait pas actuellement s'en passer, on en a encore besoin pour 20 ou 30 ans. Je sais qu'il faudra s'en passer. Je suis tout à fait convaincu que, évidemment, du fait des émissions de CO2, il va falloir réduire nos... Mais pour l'instant, on ne peut pas expliquer aux Chinois, aux Indiens, aux Africains qu'il faut qu'il se passe du gaz. Donc, moins d'investissement, moins de production, plus de demande d'un autre côté, et évidemment, le prix, il augmente. Et quand on est sur des matières premières comme le gaz, ça explose carrément.
La Russie ne peut pas nous en fournir davantage ?
Ça, c'est une très bonne question qui est au cœur des discussions actuelles. La Russie, pendant longtemps, la Russie a les plus grosses réserves de gaz du monde. La Russie a toujours été un très gros producteur de gaz. Une société qui s'appelle Gazprom, qui est de très loin le plus grand producteur de gaz au monde. Et pendant très longtemps, la Russie a exporté, continue d'ailleurs à exporter beaucoup de gaz vers l'Europe. L'Europe, il faut le savoir, c'est quand même pratiquement 40% du gaz consommé en Europe qui viendrait de Russie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que traditionnellement, jusqu'il y a 4 ou 5 ans, la Russie exportait du gaz vers l'Europe, c'était son marché presque unique à l'exportation et les recettes du gaz étaient importantes. Donc la dépendance par rapport à la Russie était, je peux dire, croisée, c'est-à-dire que les Russes dépendaient de nous pour les devises, et nous, on dépendait évidemment du gaz pour se chauffer. Ce qui a changé, c'est le problème de l'Ukraine, puisque l'essentiel des exportations russes vers l'Europe passait par l'Ukraine. Or, avec la crise en Ukraine, et en particulier la crise de 2014, le fameux problème du Donbass maintenant, les Russes essaient de contourner, on fait deux choses, ils essaient de contourner l'Ukraine, d'où les fameux pipelines dont on parle beaucoup, Nord Stream et le fameux Nord Stream 2, sur lequel on pourra peut-être revenir si on a le temps.
Qui doit passer par l'Allemagne.
Qui va directement, ce qui est assez intéressant, qui va directement de la Russie à l'Allemagne et qui alimente l'Allemagne, qui est un gros consommateur de gaz, ne l'oublions pas. Et puis, deuxième chose qu'a fait la Russie s'est dit, les marchés européens ne sont peut-être pas très sûrs compte tenu des relations politiques, donc on va essayer de se retourner vers l'Asie. Et en particulier, la Russie a signé en 2016 un énorme contrat avec la Chine pour exporter du gaz vers la Chine, et ça commence à se mettre en place. Donc maintenant, les Russes sont moins dépendants du marché européen.
Et puis il y a l'augmentation du prix du carbone pour les industriels, non? Ça joue aussi?
Oui, tout à fait. Ben,
c'est 65 euros la tonne, je crois, à peu près.
Je me souviens encore de l'époque où on l'a vu tomber à quelques euros par tonne. Donc ça augmente. Le prix du carbone, c'est ce que vous avez payé. Si vous émettez trop de CO2, il faut racheter sur le marché un permis d'émission, si l'on peut dire. Ça paraît un peu bizarre, mais ça se passe comme ça. Et actuellement, comme il y a augmentation des émissions de CO2, tout le monde est à la recherche de permis.
On fait une pause, Jean-Pierre Fenech, et on se retrouve juste après. On va comprendre maintenant comment l'électricité, elle aussi, voit ses prix augmenter.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Leclerc.
Eh ben, des pâtes et des pâtes.
Exactement. Le lot de 3 paquets de 500 grammes de pâtes Panzani, avec 34% de réduction immédiate à 1,78€ seulement.
1,19€ le kilo? Bien vu. Enfin, 3 paquets quand même.
Ah ben, c'est le minimum quand t'as des ados. Attends, souviens-toi quand t'avais 15 ans.
Ah ouais, t'as raison. Non, et prends-en deux, là.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 28 septembre au 9 octobre, modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Renault, longue vie aux voitures à vivre.
Et combien de fois on m'a dit, José, tu vas trop loin, faut que tu t'arrêtes. Eh ben oui, mais moi j'avance, et c'est ça qui est drôle. Alors que s'arrêter, tiens, j'essaie là. Ah ben oui.
Avoir confiance en ses freins, c'est capital. En ce moment, Renault Car Service vous offre jusqu'à 100€ en bon d'achat sur les opérations freinage. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers du 1er septembre au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Renault.
Carrefour, vous avez été plus de 13 000 à nous faire part de vos envies. Et comme Alex, Pierre et Sandra, plus de 600 à nous demander des promos sur les couches. Alors, jusqu'à lundi, avec 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, le méga pack de 102 couches Baby Dry Pampers Taille 3 revient à 6,83€ seulement, soit 7 centimes la couche chez Carrefour et Carrefour Market. Et oui, c'est ça, le mois de toutes les envies d'Alex et des vôtres aussi. Carrefour.
J'ai payé en caisse 22,77€, différentes tailles et variétés disponibles, détails sur carrefour.fr.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Jean-Pierre Fenech, qui est un spécialiste de l'énergie, en train de nous expliquer pourquoi les prix flambent. Alors, on l'a vu pour le gaz, maintenant on va voir pour l'électricité, parce que le tarif du gaz influe sur le tarif de l'électricité.
Bien sûr, bien sûr.
Ça paraît pas évident.
Non, c'est pas évident. C'est d'ailleurs pas tout à fait évident. Si on prend l'exemple, on va partir là-dessus, l'exemple de la France. En France, l'électricité est faite essentiellement, comme vous le savez, à partir de nucléaire, 80% environ. Et puis, il y a les barrages sur le Rhône, l'hydraulique, qui représente au moins 15% d'électricité ou quelque chose comme ça. Et puis, les quelques pourcents restants, ce sont les nouvelles énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, etc. Donc, en France, on dépend relative. S'il y a une ou deux centrales au gaz qui sont en construction, mais c'est marginal. Mais le problème, il est le suivant, c'est que le marché électricité est un marché européen. Et c'est-à-dire une bonne chose. Il faut des interconnexions, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des lignes électriques entre les différents pays, parce que sinon, à certains moments, on n'aurait pas assez d'électricité, à d'autres moments, on aurait trop. Donc, ces interconnexions sont une très bonne chose. Je me souviens de quelqu'un qui m'expliquait que plus on a d'interconnexions, plus on diminue, en fait, le prix de l'électricité que doit payer le consommateur, parce que ça fluidise le système.
Le marché européen dont Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, dit pique-pendre aujourd'hui, au fond, il est totalement défavorable aux Français.
Il est défavorable aux Français. C'est-à-dire, ce que l'on peut constater, c'est que le prix, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais le prix de l'électricité produit par les centrales nucléaires est relativement modéré, entre guillemets. Mais par contre, le prix de l'électricité qui sort de centrales au gaz est exorbitant. Donc, l'impact de ces prix quand on importe de l'électricité de d'autres pays, cette électricité est très chère et donc affecte le mix des prix, je dirais, français.
J'ai cru comprendre aussi que ce marché européen de l'énergie fait que les prix dépendent du coût nécessaire à la mise en route de la toute dernière centrale appelée en renfort pour répondre au pic de la demande sur le réseau électrique.
Alors là, votre discours est parfait. C'est le discours économique qui dit que le prix doit être le prix marginal, c'est-à-dire que le prix doit s'aligner sur la dernière centrale que l'on appelle, les coûts de production de la dernière centrale qu'on appelle. Donc, si je résume, en temps normal, donc vous faites du nucléaire, vous faites du charbon, et puis à certains moments, vous n'avez pas assez d'électricité, vous lancez une centrale au gaz qui en général ne marche que relativement peu d'heures dans l'année, mais cette centrale au gaz actuellement, elle coûte extraordinairement cher. Donc, si le prix doit s'aligner sur le coût de la centrale au gaz, on a un prix extrêmement élevé.
Voilà. Et alors qu'on a utilisé cette centrale au gaz
de manière très, très marginale.
Très marginale, effectivement.
Tout à fait.
Depuis 2007, la libéralisation du marché de l'électricité pour les particuliers était censée tirer les prix vers le bas. Or, c'est exactement le contraire qui est arrivé.
Le gaz et l'électricité sont des industries de réseau. C'est-à-dire que quand il faut transporter le gaz dans un gazoduc, il faut transporter l'électricité par une ligne électrique. Donc l'idée quand même, et pendant très longtemps on a vécu là-dessus, il y a des monopoles. En France, c'était EDF qui avait le monopole de l'électricité. Et Gaz de France avait plus ou moins le monopole du gaz. Ça ne passait pas si mal parce qu'on a eu des gens extrêmement brillants, en particulier à la tête, Marcel Boiteux par exemple, que je citerai, à la tête d'EDF, qui avait imaginé un système de tarification marginale. D'ailleurs, ça avait des choses à voir avec ce qu'on a dit, mais ça marchait très très bien. Mais malheureusement, je le dis, là j'exprime une opinion, au niveau européen, on a dit, oulala, les monopoles, on n'en veut pas, mettons tout ça dans... Il faut du marché, d'ailleurs, il faut se rappeler quand même que dans la création du marché commun, c'était à la fois pour rassembler les pays européens d'un point de vue politique, mais également pour lancer, justement, ce système de marché. Eh bien, on a dit, on va faire un marché pour l'électricité, pour le gaz, qui, à mon avis, n'est pas totalement pertinent, mais c'est un avis personnel. Je ne le dirai pas dans une réunion d'économistes pertinents. Donc, on a mis ça et on s'aperçoit en fait que ça ne marche pas très bien. On s'est d'ailleurs aperçu, je me souviens, de discussions aux États-Unis il y a 20 ans où les gens disaient « mais on ne s'en sort pas ». Parce qu'en fait, on déréglemente, comme on dit, les marchés. Et c'est très bien dans certains secteurs, je ne le dis pas, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais quand vous êtes dans le secteur du pétrole et de l'électricité, pas du pétrole justement, mais de l'électricité ou du gaz avec leurs caractéristiques d'industrie de réseau, on passe son temps à rajouter des rustines au système pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et donc l'augmentation des prix est un peu la conséquence de tout ça.
Alors et le pétrole et l'essence, puisque c'est l'essence,
oui,
nous les particuliers, qui nous intéresse.
J'ai écouté l'intervention du Premier ministre. Il a dit deux choses. Une chose déjà qui est relativement intéressante, c'est que le prix de l'essence est revenu à ce qu'il était il y a 2 ans. Et ça, c'est vrai. En fait, on a eu la chance l'année dernière d'avoir un prix très bas. Je ne dis pas qu'actuellement, c'est bien d'avoir un prix très haut. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il n'a pas du tout parlé d'effet modérateur sur les prix de l'essence. Dans le prix de l'essence, vous avez quand même une grosse partie des taxes. Je pense qu'actuellement, c'est que 50, 60 centimes qui sont le prix de l'essence à la sortie de la raffinerie. À cela, vous rajoutez 20 ou 30 centimes de frais de distribution, des frais de transport, stockage, etc. Et vous rajoutez une taxe importante qui s'appelle la taxe intérieure sur les consommations énergétiques. Je vous fais grâce du détail. Mais ça représente pas 60, 70 centimes. Et là, sur tout ça, vous payez de la TVA. On paye de la TVA sur la taxe. Et ça vous amène donc à un prix relativement élevé. De la même façon, tout à l'heure, quand on parlait de la Russie, est-ce que la Russie manipule un petit peu la production de manière à faire monter le prix? Est-ce que les pays producteurs, effectivement, ont une volonté, c'est de maintenir le prix à un niveau relativement satisfaisant pour eux, parce que toutes leurs recettes dépendent de ce prix du pétrole. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des limites et qu'à un certain moment, il faudra bien stabiliser ce prix qui devrait être un peu plus bas, à mon avis.
Mais le prix des énergies fossiles doit augmenter si l'on veut réussir la transition énergétique. Et même aujourd'hui, il n'est pas encore assez cher, au fond.
Tout à fait. Alors là, vous avez l'air, mais souvenons-nous quand même qu'il y a maintenant 3 ans. On va presque arriver vers le 17 novembre à cet majeur anniversaire. On a eu la crise des Gilets jaunes. Et la crise des Gilets jaunes, vous vous souvenez, elle est partie du fait que le gouvernement avait décidé d'augmenter un peu plus que normalement les taxes sur en particulier le gazole et même un peu l'essence, de manière justement à réduire la consommation et à faire... C'est très simple, on augmente les taxes, on augmente le prix, les gens consomment moins. Le problème, c'est que quand vous habitez à 50 km de votre lieu de travail, que vous n'avez que la solution d'avoir votre voiture pour aller au travail, ça a provoqué des problèmes extrêmement violents.
Dernière question, les industriels vont devoir répercuter les hausses du prix de l'énergie, alors que ce soit le gaz, l'électricité, le pétrole, sur les prix de vente des biens. Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation des prix d'à peu près tous les biens de consommation?
Oui, il est possible que... La reprise économique est telle actuellement que, évidemment, les besoins sont énormes. Bon, on va prendre juste comme exemple le problème des pièces nécessaires aux voitures, les fameuses puces électroniques que la Chine ne peut plus produire en quantité suffisante, ce qui fait que les délais d'attente pour les nouvelles voitures sont très longs. C'est très bien peut-être pour l'écologie, mais en attendant, pour les particuliers, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes.
Je vous remercie, Jean-Pierre Favennec, d'être venu sur Europe 1 pour nous expliquer tout cela. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Olivier Siboni. On va parler de bruit.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Olivier Siboni.
Bonjour.
Vous êtes prof à HEC Paris et vous enseignez la stratégie et la prise de décision à la Said Business School de l'Université d'Oxford. Et vous sortez un livre qui est déjà un best-seller aux États-Unis. Il est intitulé Noise. Il est coécrit avec le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman et Cass Sunstein, qui est professeur à Harvard. Noise, c'est le bruit en anglais, mais pas le bruit tel que nous l'entendons. De quoi s'agit-il au juste et en quoi nous fait-il commettre des erreurs?
Non, c'est pas le bruit de l'autobus qui passe dans la rue. Le bruit, tel qu'on l'entend dans ce livre, on en a une définition précise, c'est la variabilité indésirable dans les jugements. Et le mot-clé, c'est indésirable. Il y a des tas de jugements sur lesquels on peut avoir des opinions différentes et c'est très bien. Si vous préférez Bob Dylan et moi les Rolling Stones, c'est très bien comme ça. Si vous votez pour un candidat aux élections et moi pour un autre, c'est très bien comme ça. Là où ça pose problème, c'est quand on croit qu'il y a une bonne réponse. Si vous voyez deux médecins et qu'il y en a un qui dit que vous avez une maladie et l'autre qui dit que vous en avez une autre, c'est pas de la diversité, c'est pas de la créativité, c'est pas de l'innovation, c'est pas du pluralisme, c'est ce qu'on appelle du bruit.
Il y a forcément un des deux qui fait une erreur, peut-être même les deux.
Peut-être même les deux.
Oui, effectivement. Il y a donc dans tous nos jugements une variabilité indésirable, vous l'avez dit, c'est le bruit, qu'il ne faut pas confondre avec le biais, qui est tout aussi nuisible, mais que l'on connaît mieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le biais? Alors on en connaît plein des biais, biais de confirmation, biais de disponibilité, biais rétrospectif, on en parle tout le temps. Mais en quoi est-ce différent du bruit?
La manière la plus simple de l'expliquer, c'est de prendre un exemple, et de prendre un exemple avec une quantité. Si vous faites une prévision, par exemple, vous prévoyez la croissance du PNB pour l'année prochaine, et vous avez 10 prévisionnistes, et en moyenne, ils sont trop optimistes. En moyenne, la moyenne de leurs prévisions, ça va être qu'ils vont dire que la croissance est de 6%, et puis l'année prochaine, on s'aperçoit qu'elle n'était que de 4%. Il y a une erreur moyenne. Mais si je regarde les prévisions de chacun de ces prévisionnistes, elles ne sont pas toutes identiques. Il y a aussi une variabilité entre leurs prévisions. Et donc, dans la prévision de chaque prévisionniste, on a une erreur par rapport à la réalité, qui est combinaison de l'erreur moyenne et de l'erreur individuelle de chaque prévisionniste. L'erreur individuelle, l'erreur un peu aléatoire, c'est le biais. Le bruit, pardon. Alors que l'erreur moyenne, c'est le biais. Et le bruit va avoir toutes sortes de causes et toutes sortes d'origines dans lesquelles on peut.
Au fond, le biais, l'erreur est prévisible. C'est toujours la même erreur.
Le biais est prévisible, c'est toujours la même
voilà,
erreur.
Voilà. Et c'est régulier. Alors que quand il s'agit de bruit, c'est une variabilité aléatoire en fonction
exactement
de chacun.
Et c'est pour ça qu'on y prête moins attention. C'est pour ça qu'en fait, on est toujours très attentif aux biais. Et on a raison d'être attentif aux biais. C'est très important, les biais. Mais en fait, si on ne regarde que les biais, on passe à côté d'une partie importante du problème. Le bruit.
Alors justement, on va prendre des exemples, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier d'émettre des jugements, les juges, les recruteurs, les médecins, les assureurs, les financiers, les dirigeants d'entreprise. Or, ils sont souvent ces jugements inconstants et incohérents, sans même que les gens qui les émettent s'en rendent compte. On n'est pas tous pareils, vous nous l'avez dit, c'est plutôt bien. Mais alors prenons des exemples avec les juges, par exemple.
Prenons l'exemple des juges. En fait, ce qui est frappant, évidemment, quand vous avez deux juges qui regardent le même cas, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient exactement d'accord. Ce n'est pas des machines, c'est pour ça qu'on s'en remet à leur jugement. Mais enfin, on s'attend quand même à ce qu'ils soient à peu près d'accord. Et en fait, ce qui est très frappant quand on regarde les études là-dessus, comme sur tous les autres jugements d'ailleurs, c'est que l'ampleur du bruit est bien plus grande qu'on ne le croit. Ce qui est surprenant, ce n'est pas qu'il existe le bruit. Par définition, quand on parle de jugement, c'est qu'on tolère que les gens ne soient pas exactement d'accord. Sinon, on ne dirait pas que c'est une question de jugement. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a beaucoup plus de bruit qu'on ne le croit. Je prends l'exemple des juges. Une étude aux États-Unis, vous donnez les mêmes cas à 200 juges. Quand je dis que c'est les mêmes cas, ça veut dire qu'on leur donne une petite vignette simplifiée qui présente le cas. Donc, on devrait avoir beaucoup plus de convergence sur cet exemple simplifié qu'on en a dans un vrai tribunal où on a des tas de facteurs émotionnels qui viennent se rajouter. Et bien, même sur ces vignettes simplifiées, vous allez avoir des écarts entre les jugements présentés par deux juges qui peuvent aller de 15 jours de prison à 15 ans de prison. En moyenne, si vous prenez deux juges au hasard, la différence entre eux va être plus que la moitié de la peine qu'ils ont prévue. Donc en fait, la loterie qui vous attribue un juge quand vous êtes un prévenu pèse presque autant que des tas d'autres facteurs qui, eux, doivent peser dans la décision que vous allez subir. Bien sûr, la décision doit être individualisée. Je ne suis pas du tout en train de dire que tous les prévenus devraient être condamnés à la même chose quand ils ont commis le même crime. Ça serait complètement idiot. Bien sûr qu'il faut que la peine soit individualisée. Mais quand on parle d'individualiser au prévenu, à ses circonstances, au cas pour lequel il est condamné. On ne parle pas de l'individualiser à la personnalité du juge. Personne ne peut souhaiter ça.
Et alors justement, le bruit, à ce moment-là, c'est quoi? Est-ce qu'on le sait? On le sait. Qu'est-ce qui va influencer un juge par rapport à un autre?
Mais il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que vous avez, ça tous les avocats vous le diront, vous avez des juges qui sont plus sévères en moyenne que d'autres. Votre avocat peut vous dire, oh là là, pas de chance, vous êtes tombé sur celui-là. Ou, ah, on s'en est plutôt bien sorti, on aurait plus mal tombé. Ça, c'est ce qu'on va appeler le bruit de niveau. C'est-à-dire que vous avez des niveaux de jugement différents entre les juges. La deuxième chose, elle est plus troublante, c'est que le même juge n'est pas le même à tous les moments de la semaine ou à tous les moments de la journée. On a des expériences et des mesures économétriques qui nous montrent, par exemple, que les juges sont plus sévères avant le déjeuner qu'après. Et ils ont faim, et ils sont de mauvaise humeur. Ils sont plus sévères quand ils viennent de voir une série de prévenus qu'ils ont disculpés ou qu'ils ont acquittés que quand ils viennent de voir une série de gens qu'ils ont condamnés. Ils sont plus sévères, c'est très troublant, quand leur équipe de foot préférée a perdu le match du week-end que quand elle a gagné. Et ils sont encore plus sévères quand leur équipe de foot préférée a perdu alors qu'on ne s'y attendait pas que quand elle a perdu alors qu'on s'y attendait. Donc on voit vraiment ce genre de différence. Ça, c'est ce qu'on va appeler le bruit d'occasion. C'est qu'on n'est pas le même d'une occasion à l'autre. Et puis quand on a dit ces deux choses-là, on se dit, bon, c'est bon, on a fait le tour. On a la différence entre les gens, bon, ok. Et puis on a la différence à l'intérieur des gens, bon, c'est pas terrible non plus, mais voilà, on a fait le tour. En fait, pas du tout. On n'a pas encore vu la chose la plus importante. C'est que, entre nos deux juges, l'ordre dans lequel ils vont classer les cas n'est pas le même. Non seulement il y en a un qui peut être plus sévère que l'autre en moyenne, mais ils ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Peut-être que celui qui est plus sévère va être en fait beaucoup plus indulgent avec les gens qui sont des criminels pour la première fois. Il se dit, bon, bah, c'est un petit écart, c'est pas grave. Par rapport à la moyenne des gens, il va être plus indulgent avec eux. En revanche, il va être très, 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 très dur avec les criminels en col blanc parce qu'il trouve que c'est vraiment intolérable. Et peut-être que l'autre, ça va être le contraire. Donc, en fait, ils ont des goûts différents, ils ont des préférences différentes, ils ont un pattern de jugement différent. Et ça, c'est une troisième sorte de bruit qui est très troublante parce qu'en fait, elle tient à notre personnalité, à notre individualité, à ce qui nous rend unique. Et on est habitué à considérer que c'est une bonne chose qu'on soit unique, que c'est formidable qu'on soit tous différents, qu'on est là pour exprimer notre individualité. Et c'est vrai, sauf quand ça cesse de l'être, parce qu'on est parti d'un système qui attend de nous qu'on produise des décisions à peu près uniformes.
On va voir ce que ça donne avec les médecins, juste après une pause, Olivier Siboni.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Olivier Siboni qui publie Noise chez Odile Jacob, coécrit avec le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman et avec Kasun Stein, le professeur à Harvard. Les médecins, alors face aux mêmes patients, avec les mêmes radios, des médecins différents peuvent poser un diagnostic différent.
Oui, et on a l'air de s'en prendre spécifiquement aux radiologues. Rien contre les radiologues. C'est simplement que c'est plus facile de comparer deux jugements de deux radiologues sur la même radio que de comparer deux jugements du même médecin après avoir vu le même patient, parce qu'on ne sait pas s'ils ont vraiment vu le patient au même moment. Il peut y avoir toutes sortes de paramètres. Quand on regarde une radio, on regarde une radio. Et si on ne voit pas la même chose sur la radio, c'est qu'on n'a pas vu la même chose sur la radio alors que c'était la même radio. Donc on a une variation, on a du bruit. Et il y en a beaucoup. Il y en a sur les radios, il y en a sur les mammographies, il y en a sur les angiogrammes, il y en a sur toutes les formes d'imagerie médicale. Il n'y en a pas énormément. Il ne faut pas mettre...
Mais il peut y en avoir.
Terroriser tout le monde, mais il peut y en avoir.
On l'explique de la même manière que pour les juges, en fonction de l'heure à laquelle on regarde la radio.
On l'analyse un peu de la même manière. Alors il y a effectivement la fatigue du lecteur et sa sensibilité plus ou moins grande, simplement sa fatigue visuelle, parce qu'un radiologue peut voir défiler des dizaines ou des centaines de radios par jour. Il y a aussi des variations d'une personne à l'autre, ce qu'on appelait du bruit de niveau dans notre exemple précédent, c'est-à-dire des variations d'une personne à l'autre sur la propension à diagnostiquer une certaine chose. Donc par exemple, le taux de faux positifs, c'est-à-dire de diagnostics qu'on fait alors qu'on ne devrait pas les faire, je vois par exemple une tumeur alors qu'en fait il s'avère qu'il n'y en a pas, va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont tendance à se dire « Ouh là là, je vois beaucoup de problèmes là où il n'y en a pas » et d'autres qui ont tendance à moins les voir.
Alors, on pourrait prendre des exemples sur les demandes d'asile politique. Aux États-Unis, on parle de roulette des réfugiés, tellement le bruit est important.
Oui, ça, c'est un exemple du bruit de niveau dont on parlait tout à l'heure. Dans le même tribunal à Miami, je crois, vous avez un juge qui admet 5% des candidats à l'asile et l'autre qui en admet 88%. Ça ne peut pas être intentionnel, on a un problème.
On pourrait parler de la protection de l'enfance, les travailleurs sociaux chargés de déterminer quels enfants sont en danger, eux aussi sont sensibles au bruit. Il y a énormément d'exemples dans votre livre.
Et j'en ajoute un autre si vous me le permettez, parce que c'est celui qui personnellement m'a le plus terrifié. Les experts en empreintes digitales.
Oui, ça c'est
là,
extraordinaire.
On a quand même affaire à un sujet où on pense que ce n'est même pas une question de jugement, on croit que c'est une question de fait. Soit les empreintes digitales correspondent à celles du suspect, soit elles ne correspondent pas, celles qu'on a relevées sur la scène du crime. En fait, il s'avère que assez souvent, quand on montre la même paire d'empreintes digitales, celle qui a été relevée sur la scène du crime et celle d'un suspect, à deux experts, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et même, dans presque 10% des cas, quand on remontre la même paire d'empreintes digitales à quelqu'un qui l'a déjà vue il y a quelques mois, sans lui dire bien sûr que c'est des empreintes qu'il a déjà vues il y a quelques mois, il va avoir un jugement un peu différent. Alors, c'est pas très souvent. Ça va souvent dans le sens de la prudence, il faut le dire. C'est-à-dire que les experts en empreintes digitales savent que les décisions qu'ils prennent sont lourdes de conséquences et donc ils vont plutôt aller dans le sens de dire « je suis pas sûr » que dans le sens de dire « je suis catégorique » quand ils se trompent. Mais enfin, quand même, on a été conditionné à penser que c'était la vérité avec un grand V. En fait, c'est un jugement.
Oui, et pour les recruteurs, c'est pareil. Quand ils nous engagent ou quand ils refusent de nous engager, en fait, on ne se rend pas compte qu'ils parient sur nous, un peu comme quand on joue au tiercé, avec du bruit, autour.
Ils s'en rendent compte, ils le savent. Et d'ailleurs, tous les recruteurs vous diront « mais je sais bien que mon jugement n'est pas parfait, c'est pour ça qu'on est plusieurs à avoir des jugements différents ». Et ils pensent que, en se mettant à plusieurs et en discutant, on va résoudre le problème et qu'on va arriver à une espèce de vision harmonisée et de consensus intelligent. Il y a un fond de vérité là-dedans, mais il y a aussi une erreur. L'erreur, c'est que quand on se met ensemble et qu'on discute, sans prendre de précautions particulières, on ne va pas réduire le bruit, on va l'aggraver. C'est-à-dire qu'on va augmenter la variabilité aléatoire en fonction de l'ordre dans lequel on parle, en fonction du fait que la personne qui a parlé la première a plus ou moins d'autorité, plus ou moins de crédibilité, plus ou moins de bouteille. Donc enfin, en fait, aggraver le problème. Si on veut utiliser la collégialité pour réduire le bruit, il faut en fait que les opinions soient formées indépendamment les unes des autres, que chacun, dans notre exemple du recrutement, voit le candidat séparément, l'évalue séparément par écrit, et qu'ensuite on se retrouve pour en discuter. Là, on peut commencer à réduire le bruit, ça fait partie des méthodes qu'on décrit en détail pour essayer de traiter ce problème.
Justement, alors quelles autres méthodes proposez-vous? Puisque à partir du moment où on commence à en parler, encore une fois j'insiste, on n'en parlait jamais. Hein. Donc maintenant,
on n'en parlait jamais, on était sourd au bruit si
voilà.
On peut dire.
Maintenant on en parle, on se dit bon ben là il y a un vrai problème, comment est-ce que je peux le réduire?
Alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein de manières de le réduire, et d'ailleurs la bonne nouvelle c'est qu'on n'a même pas besoin de savoir quelle est la bonne réponse pour le réduire. Je vous ai donné l'exemple du fait de se mettre à plusieurs en ayant des jugements indépendants, c'est une bonne méthode qui marche dans beaucoup de situations. Évidemment, elle coûte cher parce qu'il faut être plusieurs. Une autre méthode qui marche très bien et dont on peut prendre un exemple concret, c'est de structurer les jugements. Je prends un exemple dans le domaine de la médecine. Autrefois, quand un bébé venait au monde, on le regardait, on se disait « Ah, ce bébé se porte bien, super !» Ou on disait « Oula, il m'a pas l'air frais celui-là, il faut qu'on s'en occupe !» Et pour ça, les médecins avaient un certain nombre de critères. Et un jour, une anesthésiste qui s'appelle Virginia Apgar aux États-Unis s'est dit « Si on essayait de structurer un peu ce raisonnement, si on essayait d'avoir une directive, une espèce de structure qui nous dise qu'est-ce qu'on doit regarder pour prendre cette décision. » Et elle a identifié 5 choses auxquelles elle a donné les initiales qui composent son nom, APGAER, qui sont l'apparence du bébé, son pouls, les grimaces qu'il fait, etc. Et en donnant une note qui va entre 0 et 2 sur chacun de ces critères, qui est bien défini, donc 0 pour la couleur c'est il est tout bleu, 2 c'est il est tout rose, 1 c'est entre les deux. Bon, donc c'est à peu près défini sur chaque critère, on arrive à donner une note au bébé, et la note, au final, vous dit si le bébé se porte assez bien ou pas bien. Et ça réduit énormément le bruit. Cette logique de définir les critères, de structurer et d'avoir une échelle sur chaque critère, en fait, on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Et partout où on l'applique, on va réduire beaucoup le bruit. Voilà un exemple, il y a des tas d'autres techniques pour avoir une bonne hygiène de la décision, comme on dit. Mais ces deux-là, la moyenne et la structuration, sont assez efficaces.
Merci Olivier Sibony. Noise, que vous avez donc coécrit avec un prix Nobel et un professeur à Harvard. Noise vient de paraître en français chez Odile Jacob. On se retrouve dans un instant. On va parler de la comtesse de Ségur avec Caroline Eliachef.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Caroline Eliachef.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Psychanalyste et pédopsychiatre. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais. C'est à l'une des plus célèbres auteurs pour enfants que vous vous intéressez dans Ma vie avec la comtesse de Ségur, qui vient de paraître chez Gallimard. Vous avez relu Les malheurs de Sophie, Les petites filles modèles, Les vacances, Gribouille, Le général Dourakine. Vous avez tout relu ?
J'ai tout relu. Même ce qui n'est pas dans les œuvres complètes.
Alors moi, je me souviens d'émotions assez fortes quand j'avais 10-12 ans et que je lisais La comtesse de Ségur, mais je trouvais ça un peu trop édifiant, un peu trop mièvre. Bon, ça datait du 19e siècle, elle aurait pu connaître Napoléon Ier, la comtesse de Ségur, si son père, le gouverneur de Moscou à l'époque, n'avait pas mis le feu à la ville au moment obligeant l'empereur à battre en retraite.
Oui, mais la Bérézina, c'est dû à Fédor Rostopchine, effectivement.
Voilà, je veux dire que c'est une vieille dame pour nous, puisqu'elle date du 19e siècle, mais néanmoins elle est révolutionnaire, non ?
D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que je suis un peu surprise quand même que vous l'ayez trouvé comme ça, que vous n'ayez pas été un petit peu excitée par les fessées et tout ça.
Mais excitée, pas du tout. Vous le dites à un moment, vous dites qu'il y a de la jouissance partout.
Absolument.
Il y a de la jouissance chez les parents qui battent les enfants et chez les enfants qui sont battus.
Absolument. Donc voilà, vous êtes un cas. Alors, évidemment, quand on le lit enfant, on a l'impression qu'elle s'adresse à l'enfant que vous êtes. Quand on le lit adulte, moi je l'ai lu en ayant l'impression qu'elle s'adressait à moi avec l'âge que j'ai, le métier, etc., etc. Et donc je me suis demandé qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Et effectivement, j'ai trouvé ça d'une modernité, entre guillemets. On peut s'interroger sur ce que c'est que la modernité. D'une part, elle a pris toujours la défense des enfants. Elle défend la cause des enfants.
À une époque où ils n'étaient pas beaucoup défendus.
Pas du tout. Pas du tout. Elle met en cause, pour la première fois, les parents maltraitants de tous les milieux sociaux, y compris bien entendu du sien. Les parents étaient intouchables. Le pater familias existait, on ne mettait jamais en cause les parents. Et donc, elle le fait évidemment pas du tout sous la forme de leçons de morale, mais elle raconte des histoires en montrant les conséquences de ce type d'éducation humiliante, etc., etc., sur le comportement des enfants. Autrement dit, elle nous dit à l'époque, les enfants ne sont pas mauvais, méchants, menteurs par nature, ils sont le pur produit de l'éducation de leurs enfants.
Et en plus,
oui, mais pardon. Et en plus, elle les suit jusqu'à l'âge adulte. Donc, elle montre les conséquences de l'éducation sur les choix de vie à l'âge adulte.
Elle le fait aussi pour les enfants gâtés, d'ailleurs.
Absolument. Absolument, mais les enfants gâtés, les insupportables, etc., ne le sont pas par nature, comme on le croyait à l'époque, mais du fait du comportement des parents. Donc c'est absolument révolutionnaire, mais à part ça, elle n'a pas fait la révolution.
Elle se met à écrire des livres à 56 ans, la comtesse de Ségur, pour la Bibliothèque Rose, qui est une nouvelle collection destinée à occuper les petites filles qui vont prendre le train.
Les petits garçons.
Et les petits garçons aussi.
C'était pas destiné aux filles.
On est en 1852, les lignes de chemin de fer sont en plein développement, et son mari, le comte de Ségur, est le président de la compagnie des chemins de fer de l'Est.
Et oui, parce que les aristocrates aussi ont besoin de gagner de l'argent.
Non, mais c'était une pistonnée, au fond. Quand Louis Hachette la signe, la comtesse de Ségur, il signe la femme du président de la compagnie des chemins de fer de l'Est. Il se trouve que ça va être elle va être très très douée.
Oui, alors il signe peut-être effectivement au départ, mais immédiatement après le premier contrat qui concernait les comtes, elle envoie immédiatement son premier livre et elle va devenir le pilier de la Bibliothèque Rose.
Oui, c'est ça, c'est un succès international. Et d'ailleurs, vous racontez que son mari va l'émanciper pour qu'elle puisse toucher elle-même son argent.
Oui, puisqu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas toucher l'argent qu'elles gagnaient, qui était versé directement au mari. Mais ça aussi, c'est intéressant parce que les femmes n'ont pu toucher leur salaire qu'en 1907, donc beaucoup plus tard. Donc, elle obtient que son mari l'émancipe, au bout de 4 ans quand même, mais elle n'en fait pas une cause. C'est-à-dire qu'elle n'enseigne absolument pas à ses filles, par exemple, qu'il faudrait être indépendante. Toutes ses filles se marient dans leur milieu avec des hommes qui vont assurer. Et elle ne fait absolument pas une cause de ce qu'elle-même a fait.
Qu'est-ce qui caractérise son œuvre pour vous ?
Alors, d'abord, vous dites son œuvre, d'abord c'est une œuvre. Il y a des personnages, il y a des histoires.
Il y a un ton.
il y a un ton, il y a un style. Et quand on les lit, effectivement, à l'âge adulte, dans la collection Bouquin, par exemple, La Pléiade du pauvre, comme disait Guicheler, on se rend compte qu'il y a une œuvre. Ce qui n'était pas forcément, enfin, on ne la conçoit pas tout à fait comme ça, parce qu'elle était femme, parce que ça, c'est la littérature pour enfants. Dans cette œuvre, alors les personnages grandissent, et on arrive à la fin, ils grandissent comme ses petits-enfants. Hein. Donc petit à petit, d'abord, elle prend des enfants de 4-5 ans, qui est l'âge de ses petits-enfants, puis ils grandissent. Et à la fin, on arrive avec La Fortune de Gaspard, au début du capitalisme. C'est un livre extraordinaire.
Quelle influence ça a eu sur vous? À la fois petite fille, quand vous l'avez lu, puis en tant que mère, et j'imagine en tant que pédopsychiatre.
Écoutez, influence, c'est pas, je ne dirais pas ça, c'est-à-dire que j'avais mes souvenirs d'enfance. Mes souvenirs d'enfance, c'était une grande excitation, contrairement à vous, et les gravures qui sont dans tous ces livres étaient restées gravées dans ma mémoire. Ensuite, j'ai tout oublié, comme le font les enfants, hein, donc. On va dire refoulé, pour employer un terme de psychanalyse. Et puis ben, voilà, donc je vivais très bien sur La Comtesse de Ségur, et puis voilà, j'ai travaillé, etc., etc. Et puis, enfin, c'est un livre de commande, hein. On m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais faire? Voilà, j'ai proposé La Comtesse de Ségur, donc je m'y suis replongée.
Oui, vous l'avez proposé quand même.
Oui, je l'ai proposé, mais on m'a quand même proposé, on m'a dit, avec, voilà, ta vie avec, qu'est-ce que tu voudrais? Tu
veux écrire. C'est une nouvelle collection, hein, Ma vie avec.
Voilà,
une
nouvelle collection, donc. Et c'est quand je l'ai relu que j'ai vu voilà ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui par rapport à Françoise Dolto, à Ginette Rimbaud, à ma vie personnelle.
Est-ce qu'on la lit encore? Est-ce que les enfants lisent encore La Comtesse de Ségur?
Alors, si l'on en juge par les ventes, oui. Les ventes restent toujours faramineuses. Elle est dans le domaine public, dont tous les éditeurs s'en sont emparés. Est-ce que les enfants l'apprécient? J'ai fait un petit sondage. Les enfants à qui je l'ai donné à lire n'ont pas tellement aimé, etc. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, la littérature enfantine, voilà, y a des livres absolument merveilleux, etc., etc. Et ceux qui lisent La Comtesse de Ségur, c'est ceux à qui leur grand-mère lit La Comtesse de Ségur. Là, ils commencent à apprécier.
On a l'impression que l'enfance, les rapports entre les enfants et les parents ont tellement changé depuis l'époque de La Comtesse de Ségur que ça n'a plus aucune actualité.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui, bien sûr, les rapports entre les parents et les enfants ont changé. Mais quand vous lisez un livre comme « Quel amour d'enfant » qui traite de l'enfant roi, rien n'a changé.
Au contraire, là, peut-être.
Voilà, si vous voulez, le contexte social a changé, beaucoup de choses ont changé, mais les sentiments n'évoluent pas. D'ailleurs, il n'y a pas que pour La Comtesse de Ségur. Pour n'importe quel livre que vous lisez de n'importe quelle époque, tout change, sauf les rapports humains, qui ne changent pas.
Dernière question, Caroline Eliashev, parce qu'on y a fait allusion, cette jouissance qui est partout présente à vos yeux, chez les enfants qui
souffrent. Sans que vous êtes sceptique.
Non, c'est pour nos auditeurs qui comprennent. Dans La Comtesse de Ségur, on ne parle jamais de sexualité, on est bien
d'accord.
Ah
non.
Hein.
Non, on ne parle pas. Il y a quelques petites allusions, mais alors il faut vraiment avoir très mauvais esprit.
Voilà, la jouissance, elle est pour vous uniquement du fait que les enfants sont battus.
Oui, les enfants sont battus, absolument. Alors, les enfants sont battus.
Et que l'on y prend plaisir.
À une époque où, alors, ils ne disent pas qu'ils y prennent plaisir, bien entendu, mais à une époque où tous les enfants étaient battus, et où ceux qui n'étaient pas battus pouvaient fantasmer ça. Alors Freud en a parlé, et d'ailleurs il évoque La Comtesse de Ségur, il a écrit un texte qui m'a énormément marqué, qui s'appelle « On bat un enfant », et il se trouve que dans ce texte de Freud, et à partir de ce texte de Freud, on retrouve dans La Comtesse de Ségur tous les fantasmes que les patients de Freud lui ont révélés sur le divan. Donc c'est assez amusant.
Merci Caroline Eliashev. Ma vie avec La Comtesse de Ségur, ça vient de paraître chez Gallimard.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, ce sera Pierre de Villeneuve et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Pierre, quel
Bonjour
est le
Frédéric.
Programme?
Alors au programme, deux ondes de choc. La première, c'est Éric Zemmour à 15% dans les sondages. Quelques hypothèses que ce soit Barnier, Bertrand ou Pécresse. Et l'autre onde de choc, c'est bien sûr la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. On en parle avec les grandes voix.
Bonne émission.